Actualité des idées aujourd'hui, deux parties. Le philosophe, traducteur et poète Martin Rueff nous fait l'amitié de sa présence pour rendre hommage à Jean Starobinski, mort hier à 98 ans. Rendre hommage à sa sensibilité et son intelligence absolument interdépendantes pour celui qui n'a pas choisi entre la vie de médecin psychiatre et son amour pour la littérature. C'était aux yeux de beaucoup l'un des plus grands critiques littéraires de langue française, nous l'évoquons donc tout à l'heure. Ensuite, et presque sans transition, le philosophe Marc Alizart exposera la manière dont, selon lui, l'avènement des crypto-monnaies et le protocole Bitcoin est un levier possible pour penser un renouveau du communisme. Avant tout cela, le printemps, pas encore les bourgeons, mais celui des poètes. Le comédien Didier Sandre lit des extraits de la correspondance de Stéphane Mallarmé, l'occasion de parler de son rapport au texte et à la lecture.
La grande table. Marie Richelieu.
Je pense que la radiophonie est une auxiliaire inestimable du poète. Elle lui permet de se faire son propre interprète et de substituer l'intention originale à la représentation écrite conventionnelle toujours insuffisante.
Ça vous fait lever les épaules de joie, Didier Sandre. Merci Paul Claudel de nous ouvrir ainsi la voie. Le printemps des poètes 2019 et 20e édition a choisi pour thème la beauté. Alors je vous avoue qu'il est tentant de commencer cette première partie par quelques mots de Jean Starobinski que nous évoquerons donc tout à l'heure et tiré du Quarto Gallimard, La beauté du monde. Je cite, l'affrontement est partout pour le poète. Autour de lui, à l'intérieur de lui, quelque chose existe qui le réprime ou qui l'étouffe et dont il faut avoir raison. Quelque chose qu'il faut briser ou charmer ou encore délivrer. Il y a toujours cet adversaire anonyme qui fait obstacle à la bouche qui prononce, ce vide qui cherche à s'emparer des mots au fur et à mesure qu'ils naissent. Il y a des frontières qui doivent être forcées, des intensités qui doivent être gagnées sur le froid et sur l'indifférence, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Des mots qui résonnent avec certains passages de la correspondance de Stéphane Mallarmé, dans laquelle vous avez pioché, Didier Sandre, pour une lecture le 12 mars prochain, à 19h à la Fondation de la Poste à Paris, des lettres où la difficulté d'écrire est souvent abordée, autant que l'amitié, autant que la vie comme elle va, la mort d'un fils ou un concert de Debussy. Bonjour à vous, Didier Sandre.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être là. C'était tentant quand même d'utiliser ces mots de Starobinski qui parlent de l'affrontement intérieur et extérieur dans la vie du poète.
Enfin, toute modestie mise à part, je pense que ça pourrait être aussi le portrait d'un interprète des poètes.
C'est vrai ?
Oui.
C'est pour ça que ça vous émeut tant à l'instant, cette idée d'un affrontement qui joue à la fois la difficulté et la joie de porter les textes.
Et cette espèce de victoire sur soi-même ? D'arriver à prononcer, d'arriver à dire, d'arriver à communiquer avec le public à travers l'imaginaire d'un poète et celui de l'interprète qui met sa propre personnalité, ses propres rêves au service d'un texte.
Quels que soient les textes, Didier Sandre ?
Oui. Oui, en tout cas ceux que je choisis, parce que sinon je ne sais pas faire.
Il n'y a pas très longtemps, vous étiez sous la direction de comédien de Denis Podalydès.
Oui.
Et on va l'entendre parler de poésie.
Je ne pourrais jamais m'arrêter de faire du théâtre parce qu'il y a un rapport à la langue, au texte dit, un rapport à la poésie. Je suis grand lecteur et amateur de poésie, genre littéraire poésie, j'en lis beaucoup. Et j'ai besoin, c'est un besoin physique de proférer, de dire, parfois très fort, pas fort, dans un certain rythme, de trouver la musique des mots, de m'enchanter de la matière des mots. Vraiment, pour moi, à ce moment-là, c'est le moment où le langage est le plus près de la chose palpable. Et souvent, les acteurs qui m'ont fasciné, adolescents, c'était des acteurs qui donnaient aux mots qu'ils disaient quasiment une qualité matérielle.
Un extrait de la masterclass que Denis Podalydès avait donné à Arnaud Laporte sur France Culture. Il vous mettait en scène récemment à la Comédie Française dans les fourberies de Scapin, Didier Sandre. Denis Podalydès qui dit sa fréquentation presque obligatoire avec la poésie. Qu'en est-il de vous ? Quel était votre premier rapport avec ça ?
Alors, je me reconnais assez dans ce qu'il dit, en fait. Mais surtout, pour moi, en tant qu'acteur, il y a une légitimité, je m'accorde une légitimité d'interprète quand j'ai à dire des phrases qui ont à voir avec la poésie. J'ai tenté le langage quotidien, le langage conversationnel, etc. Ça ne m'a pas réussi et je me suis ennuyé. J'ai besoin d'une matière textuelle pour légitimer un désir d'interprétation. Mais en fait, je m'en suis rendu compte assez tard. Dans l'enfance, j'adorais les récitations, l'heure de récitation dans la classe, c'était une vraie fête, contrairement à la plupart des autres enfants. L'instituteur ou l'institutrice disait que je récitais bien, et souvent ça attirait plutôt des quolibets, des camarades, que quand on récite bien, c'était plutôt pour faire plaisir à la maîtresse, alors que c'était vraiment pour me faire plaisir à moi. J'adorais les fables de La Fontaine, les poésies de Prévert, enfin ce qu'on peut écouter, ce qu'on peut apprendre à l'école. Et puis plus tard, vers l'adolescence, évidemment Baudelaire, Rimbaud, Lamartine, Vigny, et la voix de Maria Cazares et la voix de Gérard Philippe, et j'avais un peu honte de ce goût-là, parce que dans mon environnement familial, c'était comme une espèce de secret que je ne pouvais pas vraiment partager. Et dans cette, je me suis identifié à des acteurs qui disaient des textes, le matériau la langue m'a tout de suite interpellé. Et après, quand j'ai découvert le théâtre et identifié mon désir d'être comédien, plus j'ai mis un peu ça de côté parce que je pensais que le théâtre c'était du dialogue, c'était de la conversation, c'était de raconter la vie, et que la poésie c'était l'intimité, c'était le secret, c'était le mystère, c'était parfois même l'énigme, parce que j'aimais beaucoup apprendre des poèmes que je ne comprenais pas. J'ai appris Le bateau ivre. Comme ça, à 15-16 ans, je ne comprenais pas un mot de ce que je disais, mais j'avais l'impression d'entrer dans un mystère, d'entrer dans quelque chose où je ne pouvais qu'être meilleur en essayant de pénétrer cet univers-là. Depuis, j'ai un peu décortiqué Le bateau ivre, et c'est vraiment très complexe.
Mais peut-être que vous compreniez autre chose, Didier Sandre, et que dans cette, justement, le passage de la langue avec son mystère, avec son opacité ou avec la lumière, puisqu'il est aussi question de cela, vous transmettiez ou transportiez autre chose. Mais il y a quand même une réunion à un moment donné où la poésie et le théâtre et l'art dramatique vous permet de peut-être réunir deux désirs ou deux passions. C'est la rencontre avec Claudel, avec les textes de Claudel, Didier Sandre.
Oui, voilà, bien sûr. Et Claudel fait dire à Isée dans le partage du midi, comprendre. Mais il ne s'agit pas de comprendre, mon petit monsieur. Il s'agit de perdre connaissance. Et c'est une phrase qu'Antoine Vitesse nous disait souvent pendant les répétitions du Soulier de Satin, quand parfois on disait « je comprends pas ce que je dis, pourquoi je dis ». Mais il ne s'agit pas de comprendre, tu me suis, il s'agit de perdre connaissance, c'est-à-dire de s'abandonner complètement au texte, de s'abandonner au sens, bien sûr, mais s'abandonner aussi à la musique du texte, au souffle, à l'élan. Et c'est souvent en s'abandonnant avec cet élan-là et cette confiance que par boomerang, le sens vous revient.
Par quelle confiance, justement, on arrive à cet abandon ? Puisque vous disiez, Didier Sandre, lorsque je suis enfant ou adolescent, ce goût pour la lecture, et plus précisément ce goût pour la lecture de la poésie, est quelque chose qui est difficile à partager autour de moi, dans ma famille et dans la cour d'école, on l'entendait. Alors à quelle force on conquiert la confiance pour se laisser aller à l'abandon du sens, mais du coup aussi à l'énigme merveilleuse du poème ?
Ben c'est le temps, je crois, c'est le temps qu'on prend de les années de vie comme ça qui finissent par authentifier de façon plus large, moins peureuse, moins timorée, moins émotive ce qu'on est. Et il y a aussi bien sûr la réponse du public, c'est-à-dire que par cette fréquentation des textes, j'ai eu un retour du public, une espèce de partage qui a légitimé en fait ce goût et qui m'a permis de le livrer et de le partager encore plus et de l'investiguer, de l'authentifier en moi.
Vous êtes un grand lecteur, Didier Sand, ce qu'on peut appeler un grand lecteur, en dehors des textes que vous travaillez pour les jouer, ici Molière, ici Claudel et bien d'autres.
Oui. Non, je ne suis pas un grand lecteur.
En même temps, ça veut dire quoi quand je vous demande ça? Je ne sais même pas ce que je dis quand je dis grand lecteur.
Grand lecteur, Denis est un grand lecteur. Je veux dire, Denis est en coulisses du théâtre avec un livre tout
le
temps.
Il paraît qu'il squatte toutes les librairies de toutes les villes dans lesquelles il passe pour faire du théâtre.
Voilà, c'est ça. Donc il empile les livres, etc. Moi, je suis pas du tout dans la spéculation, dans l'entassement des choses. Il y a des livres que j'aime beaucoup énormément et que je relis souvent.
C'est peut-être ça, être un grand lecteur, c'est lire beaucoup énormément des livres que vous aimez beaucoup énormément.
Oui, et qui reste quand même pour moi énigmatique, mystérieux et infini dans la découverte. Mais je dois avouer que depuis que je suis à la Comédie Française, je lis moins, encore moins, parce que on y travaille tellement, on y est tellement sollicité par les répétitions, par les spectacles, par l'alternance, par toutes les activités de la maison, qui fait que je ne lis plus malheureusement que pour des raisons professionnelles, c'est-à-dire je lis les scénarios, je lis les textes, je lis les brochures, les projets, voilà.
Vous avez bien fait d'accepter ou pas? Parce que vous avez tellement refusé de fois la Comédie Française qui vous empêche de lire.
Non, je suis très heureux. Les deux premières années ont été un peu délicates, mais aujourd'hui, je suis très reconnaissant à cette maison de me donner de l'avenir à un âge où beaucoup de gens n'en ont plus.
Quelle merveille de vous entendre dire ça, Didier Sandre. Vous avez choisi Stéphane Mallarmé, peut-être parce qu'il est précisément dans le trou de l'énigme dont vous parliez tout à l'heure.
Ah oui.
On va écouter Jean-Pierre Richard l'évoquer en 1977.
France Culture, La Grande Table, Marie Richeux.
C'était un texte très chaud, je dirais, n'est-ce pas? Je me sentais en le lisant un peu indiscret. Un de ces textes qui appartiennent au fond à quelqu'un en tant que quelqu'un et non pas à quelqu'un en tant qu'écrivain. Mallarmé d'ailleurs avait demandé à sa mort que tous ces brouillons soient détruits, ce qui n'a pas été fait grâce au ciel. Mais alors, dans le cas de ce brouillon spécial, si intime, on pouvait se demander en effet si ce n'était pas aller contre le désir mallarméen de le publier. Et finalement, j'ai pensé que non, parce qu'il s'agissait là, non pas finalement d'un brouillon, mais d'un texte. D'ailleurs, vous savez que maintenant, on étudie de plus en plus les manuscrits, le brouillon, sous des noms comme l'avant-texte ou l'écrit. Le brouillon entre véritablement dans le texte maintenant. Et on considère que l'intérêt des brouillons est peut-être presque aussi grand, sinon peut-être plus grand que l'intérêt du texte final.
Jean-Pierre Richard, critique littéraire en 1977, grand spécialiste de l'œuvre de Mallarmé. Il évoque ici un texte spécifique qui est le tombeau d'Anatole, qui a à voir notamment avec la mort du fils de Stéphane Mallarmé. Mais ce qui est intéressant, en parlant de ses œuvres alentour, peut-être de ses œuvres, oui, limite, la correspondance, les brouillons, c'est l'idée que des textes appartiennent à quelqu'un, en tant que quelqu'un avant d'appartenir à l'auteur. Alors quand vous vous plongez dans la correspondance de Stéphane Mallarmé, Didier Sandre, est-ce que vous avez vous aussi ce sentiment d'indiscrétion?
Non, pas vraiment. C'est un grand plaisir de quand on lit les lettres, on a l'impression de connaître la personne et non pas simplement le créateur ou le poète, et de rentrer dans l'intimité de la personne, la façon dont il parle de son jardin à Vuillaine. Tout d'un coup, il y a une présence humaine, sensorielle, sensible, qui contraste beaucoup avec le travail de sculpteur de mots, de cette recherche de la forme pure jusqu'à l'énigme totale, jusqu'à être complètement abscon parfois, ou indéchiffrable, ou incompréhensible. Mais que, en contrepartie de cette recherche artistique, il y avait aussi un petit bonhomme qui soignait son jardin, qui aimait les chats, et qui s'occupait de ses enfants. Et la façon dont il parle de le tombeau d'Anatole, je dirais, est un livre absolument bouleversant. Et j'ai pensé un moment essayer d'en faire quelque chose, mais c'est un peu compliqué parce que ce sont vraiment des phrases, des fragments, des ininterrompus comme ça, mais qui témoignent d'une douleur et d'une humanité, d'une sensibilité qu'on n'imagine pas quand on a l'impression de lire une œuvre aussi hermétique, peut-être que Hérodiade ou l'après-midi d'un faune.
C'est votre premier contact, son œuvre justement, son œuvre poétique, Stéphane Mallarmé, avant que de plonger dans la correspondance, Didier Sand.
Non, j'avais bien sûr Brise Marine, La chair est triste et j'ai lu tous les livres. Non, je ne sais pas, ça c'est une chose, c'est une chose qui me parlait beaucoup. mais ça c'est des poèmes plus accessibles, etc. Mais non, vous voyez, je fais les choses souvent par obligation. C'est-à-dire, j'ai une tendance à être complètement statique de tempérament. Et quand on m'oblige à y aller, j'y vais.
Mais qui vous oblige? Votre propre nécessité intérieure ou des gens qui vous appellent en vous disant
Didier, Printemps
des Poètes,
Mallarmé? Je veux dire, Denis Podalydès me dit, est-ce que tu veux jouer Géronte dans les Fourberies de Scapin? Je dis non, j'ai pas envie de jouer Géronte. Je veux dire, on ne fait pas du théâtre pour rêver de jouer Géronte dans les Fourberies de Scapin un jour, etc. Mais comme on me le demande, je me sens responsable et j'ai envie d'honorer cette confiance et cette responsabilité. Quand Éric Ruff m'a demandé de faire une journée particulière sur la création du Soulier de Satin en novembre 43 à la Comédie Française, je n'avais absolument pas envie de le faire, mais il m'a demandé de le faire, donc j'ai été au bout de moi-même et de tout ce que je pouvais donner pour que ça se réalise et que ça se fasse, et ça s'est plutôt bien passé.
Parce que si on vous laisse faire, vous faites quoi, Didier Sand? Vous êtes dans votre salon, vous lisez à minima ou même
je
pas?
Je l'ai, oui, je rêvasse.
Comme c'est précieux.
Et donc pour l'après-midi d'un faune, c'est pareil, je veux dire... On m'a demandé, donc je dis oh là 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 là. C'est... Et puis, au fur, j'ai appris ce poème comme si c'était du serbo-croate, c'est-à-dire comme une langue étrangère qui ne me disait rien, qui ne me renvoyait aucune image, etc. Et puis bon, au bout de deux vers, je me dis ah oui d'accord, trois vers, quatre vers, cinq vers, et petit à petit les portes s'ouvrent. Vous savez, c'est un peu comme en musique, quand on écoute de la musique contemporaine, où on se dit, oh là là, ça c'est pas pour moi, je voudrais revenir à Chopin, une mélodie simple. Et quand on commence à faire une note, puis deux, puis trois, on s'aperçoit de la cohérence de la construction, les portes s'ouvrent, et on découvre une chose extraordinaire, et au bout du compte, on est payé de l'effort qu'on a fait, parce qu'en retour, on a une chose inestimable, on a la livraison d'un poème absolument sublime, qui est l'après-midi d'un faune, par exemple, pour citer celui-là.
Et il est question, évidemment, de ce poème-là et de sa mise en musique par Debussy dans la correspondance de Stéphane Mallarmé, puisque vous avez fait des choix dans cette très vaste correspondance qui va être publiée chez Gallimard le 28 mars prochain. Alors, un peu de Debussy.
Paris, dimanche, 23 décembre 1894. Mon cher ami, je sors du concert, très ému, la merveille. Votre illustration de l'après-midi d'un faune, qui ne présentait de dissonance avec mon texte, sinon qu'aller plus loin, vraiment, dans la nostalgie et dans la lumière, avec finesse, avec malaise, avec richesse. Je vous presse les mains admirativement, Debussy. Votre Stéphane Mallarmé.
L'Orchestre des siècles, dirigé par François-Xavier Roth pour cet après-midi, prélude à l'après-midi d'un faune de Debussy, et votre voix en direct, Didier Sandre, qui lit une lettre de Stéphane Mallarmé à Debussy lui-même, lui serrant chaleureusement les mains à la fin. C'est très beau parce que le choix que vous avez fait dans cette vaste correspondance de Stéphane Mallarmé met en lumière des amitiés profondes, des amitiés qui ont trait à la littérature, à la vie, à la médecine quand les enfants sont malades, aussi à l'élaboration d'une œuvre. Qu'est-ce qui vous a guidé dans ce choix, Didier Sandre ?
Ben c'était surtout de faire partager au public la simplicité de l'homme Mallarmé, qui auquel une image d'hermétisme, d'élitisme, de poésie faite pour les spécialistes, etc. Très très attaché, et mais moi-même je me disais Mallarmé c'est pas pour moi, etc. Puis je suis allé à Vulaine dans sa maison là-bas, et cette petite maison très modeste de campagne, je sais pas si je pourrais vivre là moi-même, mais avec ce jardin où tout a été restauré, enfin bon, tel qu'il le voulait, cette proximité de l'eau et la façon dont il vivait comme ça, habillé comme un rustre, loin de Paris, fuyant Paris, et il y a une proximité de cet homme pour qui je me suis pris d'une affection chaleureuse, et j'avais vraiment envie d'être son ami et de lui parler. Et quand il écrit à Henri Casalis et
qui est son ami, c'est une grande partie de sa correspondance.
Oui, il se parle comme deux frères, comme on n'ose plus parler aussi. Ces amitiés entre hommes, je veux dire qui ne où ils se tiennent la main, où ils s'avouent des sentiments, etc. J'en ai la nostalgie parce que je ne peux plus le faire aujourd'hui. Je peux plus. On peut difficilement avouer un sentiment d'amitié, même à se toucher, sans être taxé d'homosexualité ou de choses comme ça. Et parfois, ça n'a rien à voir. Ou elle est incluse de façon diffuse, mais comme chez tout le monde. Peu importe. Cette espèce de simplicité dans le rapport humain, comme ça, me touche beaucoup en miroir avec ce travail forcené, artistique, littéraire, d'une construction d'une poésie nouvelle où les mots prendraient un sens différent, où leur agencement entre eux provoquerait d'autres émotions, d'autres musiques, etc. C'est ce contraste-là que je trouvais intéressant dans ces lettres qui sont pour la plupart d'une très grande simplicité.
Et d'ailleurs, il se dit au travail, hein, il raconte qu'il élabore le poème L'Azur, il raconte que ça lui coûte, il raconte que c'est difficile. Vous disiez tout à l'heure, Didier Sandre, moi, si je m'écoutais, je resterais tranquille chez moi. Il dit pas exactement ça, mais il dit ça m'est difficile de me mettre au travail. Ce n'est pas quelque chose qui est toujours agréable. Et puis il parle de Paris dans une lettre à Claudel. Il critique aussi ce milieu mondain, la manière dont il est renvoyé à une certaine image. Et puis il y a ces petits chats. C'est qui ces petits chats ?
Il y a ces petits chats, c'est sa femme, qui était une Allemande très sévère, très rigide.
Aux beaux yeux bleus, si on en croit ses lettres.
Oui, mais enfin, elle est vraiment vilaine quand même. Et puis Geneviève et Marie. Mais ces petits chats, donc, c'était sa famille, c'était ses proches, auxquels ils étaient très très attachés. Il était très attaché, bien sûr. Tout ce côté domestique, comme ça, du personnage Mallarmé, moi, me plaît beaucoup.
Ça vous permet de retourner ou d'aller à l'œuvre de Stéphane Mallarmé armé différemment ou par un autre chemin, Didier Sandre ?
Oui, par un lien affectif, par une amitié. Oui, comme que... Et quand je vois son visage... cette photo célèbre où il a cette espèce de plaid du maître de la rue de Rome, où tout le monde se précipitait, hein, Paul Valéry, tout ça. Donc, et puis il y a cet autre côté que j'aime beaucoup de Mallarmé, c'est le petit prof chahuté. C'est-à-dire, il était prof d'anglais, hein. Et il a fait les lycées dans le midi de la France, à Besançon, à Sens. Et c'était un prof épouvantable, quoi, qui n'avait aucune autorité sur les élèves. Et il y a dans ses lettres, là, il raconte à quel point les semaines sont longues parce que ces heures de cours où les élèves n'écoutent pas, où le chahute, etc., sont pénibles et le distrait de son travail et le fatigue. Et lui qui voudrait ne rester qu'à travailler sur sa propre poésie. C'est un côté tellement touchant. On est beaucoup à faire beaucoup de choses par nécessité et à mettre à retarder ce qu'on a vraiment envie de faire. Et ça, c'est aussi, c'est un côté très humain, très touchant, très et je sens beaucoup d'amitié pour lui.
Ben, j'espère que c'est une amitié qui circulera lors de cette lecture. Ça a lieu dans le cadre du Printemps des Poètes dont France Culture est partenaire, le 12 mars prochain à la Fondation de la Poste à Paris. C'est à 19h, il reste des places ?
Bien sûr,
oui. Oui, bien sûr, on me dit en régie, il reste des places. Un très grand merci Didier Sandre et je signale évidemment la parution le 28 mars prochain aux éditions Gallimard de cette grande correspondance de Stéphane Mallarmé avec un avant-propos de Bertrand Marshall. Merci beaucoup.
Merci de m'avoir accueilli.